C'est bon? Non?
Ça, si, c'est bon. Merci. Bien, merci pour avoir ouvert la porte au fond. On va essayer de faire un petit courant d'air. Il fait chaud, non? Peut-être que vous avez envie de vous lever un peu, bouger un peu, non? Ça va? Bon, parce que moi j'ai eu besoin, hein, je vous le dis, je suis sorti. Reprendre un peu d'énergie parce que ça me plombe un peu cette chaleur, mais bon. Ce sont des cannibales. Et c'est de vous qu'on parle. Au tout début de l'ère chrétienne, les chrétiens étaient soupçonnés de cannibalisme. Vous le saviez? Est-ce que vous savez pourquoi? Il y a des murmures, mais ils n'arrivent pas jusqu'à moi. Ah oui, à cause de la Sainte Seine. À cause de la Sainte Seine, la rumeur courait. J'en ai entendu un qui disait qu'ils offrent des corps en sacrifice vivant. Et un autre disait, oui, et après, ils boivent du sang. Alors, la France s'est habituée à notre habitude de manger du pain et de boire du vin. Ça, c'est bien passé dans les mœurs. Elle regrette parfois qu'il n'y ait pas de fromage, peut-être, mais pour le reste, ça va. Mais il y a une pratique dans nos églises évangéliques qui n'en finit pas de susciter la curiosité et l'étonnement. Et parfois jusque parmi nous, et parfois même jusque dans la famille du pasteur. Un de mes enfants avait répondu il y a quelques années à la question « Qu'est-ce que c'est un pasteur ?» Il avait répondu « C'est quelqu'un qui met les gens sous l'eau ». Ça marque un baptême. Ça, c'est une pratique étonnante. C'est une pratique qui frappe les esprits, déjà parce qu'elle est très visuelle. On finit par s'habituer à tout, mais un baptême, c'est quand même quelque chose de très étonnant. Il n'y a rien de naturel, au fond, d'entrer tout habillé devant 200 personnes dans une espèce de grande baignoire en plastique. Il n'y a rien de naturel à se laisser basculer en arrière. Alors ici, je crois que les gens s'assoient avant d'être basculés, mais dans les églises où je suis passé, personnellement, les baptistères étaient très grands, et alors on était debout, et on bascule de toute sa hauteur en arrière, et ça n'a rien de naturel. Il n'y a rien de naturel à ressortir trempé et dégoulinant au milieu d'un endroit qu'on essaye d'habitude de laisser propre, et au milieu d'une assemblée qui applaudit, qui chante et se réjouit. Trempé et dégoulinant, tu vois, c'est... Voilà. C'est mieux ? Ah ouais ? Deux, un, deux. C'est mieux ? Moi, je fais pas la différence, franchement. Mais... Ok. Bien. Donc, je disais que ça n'a rien de naturel, que c'est même franchement bizarre, et qu'il me semble que sans explication de texte, on pourrait se croire chez les fous, en fait. Pourquoi est-ce que les gens font une chose pareille? Il faut une motivation importante, il faut une raison profonde pour faire quelque chose comme ça. Et peut-être que cette motivation et que ces raisons, en fait, vous échappent. Alors, je vais vous confier un secret. Les personnes qui se font baptiser voient leur vie marquée à jamais par cette expérience. Et ce matin, on va voir deux choses qui se passent lors du baptême et qui expliquent pourquoi leur vie est marquée à ce point. Mais avant de voir ces deux choses, on va se poser la question de l'importance du baptême. On va se poser cette question parce qu'elle est liée au sens du baptême, et parce que, également, vous allez voir qu'il y a là, je crois, un paradoxe étonnant. Et pour tenter d'approcher ce paradoxe, et donc de comprendre un peu le sens du baptême, je vais m'appuyer sur deux textes. Le premier, il est bien connu, bien connu dans nos églises, je l'ai moi-même lu plusieurs fois, on le trouve en Matthieu 28, les versets 19 à 20. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui connaissent ces versets par cœur. Matthieu 28, donc Matthieu c'est le premier évangile dans le Nouveau Testament, 28 c'est le dernier chapitre, verset 19 à 20 qui nous dit, c'est Jésus qui dit ça à ses disciples, « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » C'est le grand mandat missionnaire que Jésus confie à ses disciples. Et j'ai déjà partagé ça avec vous, il me semble, hein, mais en fait, dans ce texte, il n'y a qu'un impératif, qu'un seul commandement, et ce commandement, c'est de faire des disciples, de faire de toutes les nations des disciples. Et le reste nous explique comment faire ça. Dans le grec, le reste, ce n'est pas des impératifs, ce sont des gérondifs. Et donc, ce texte nous explique qu'on fait des disciples en baptisant les gens, d'abord, et puis en les enseignant. C'est comme ça qu'on fait des disciples. Alors, à la question du sens du baptême, du pourquoi on fait ça, la première réponse, c'est parce que le baptême est la première marque du disciple. Comment est-ce qu'on fait un disciple ? Eh bien, d'abord, on fait un disciple en le baptisant. Et donc, celui qui veut devenir disciple du Christ, la première chose qu'il a à faire, c'est de se faire baptiser. Alors, à nouveau, on se pose la question, d'accord, ok, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut se faire baptiser pour être un disciple du Christ ? Alors, il y a plein de réponses très théologiques et on va aborder la question, mais je voudrais d'abord donner la réponse la plus simple. Et alors, elle n'est peut-être pas satisfaisante de prime abord, mais quand même, la réponse la plus simple et, je crois, la plus juste théologiquement. On le fait parce que Jésus le demande. C'est pour ça qu'on le fait. Qu'est-ce que c'est la marque d'un disciple ? Un disciple, par définition, c'est quelqu'un qui fait ce que demande son maître. Et donc, en te faisant baptiser, tu manifestes par ton obéissance que Jésus est ton Seigneur. Et ça, ça fait de toi un disciple. Au point qu'on peut dire que si tu n'es pas baptisé, et pardon de le dire aussi abruptement, mais de temps en temps, il faut secouer les arbres pour en faire tomber le fruit, tu n'es pas un disciple au sens où Jésus l'entend. De ce point de vue, on ne peut pas exagérer l'importance du baptême dans la vie chrétienne. Mais maintenant que j'ai dit ça, deuxième texte. Et c'est ce texte qui nous plonge dans un grand paradoxe. Et peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà en tête. Ce texte, on le trouve dans l'évangile de Luc, cette fois-ci, au chapitre 23. Donc pareil, presque à la fin. Luc, chapitre 23, et les versets 39 à 43. Jésus est crucifié au milieu de deux malfaiteurs. Et voilà ce que l'évangile nous rapporte. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le rabroua en disant « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » En voilà donc un qui a officiellement obtenu son ticket d'entrée au paradis sans baptême. On est d'accord, il n'est pas passé par les eaux du baptême. Et Jésus lui dit à celui-là qu'il sera au paradis. Alors tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne pouvait pas exagérer l'importance du baptême. J'ai dit que le baptême, c'est un élément essentiel, fondateur de la vie chrétienne. J'ai même dit que si on n'est pas passé par le baptême, on n'est pas disciple au sens où Jésus l'entend. Et maintenant, face à ce brigand qui place toute sa confiance en Jésus auprès de qui et avec qui il va mourir, je dois dire que le baptême est sans aucune espèce d'importance pour le salut. Le baptême ne sauve pas. Alors, c'est important ou c'est pas important ? Ben, c'est là que ça devient intéressant et je vais prendre un risque. On va voir maintenant ces deux choses essentielles qui se passent lors du baptême et qui changent tout dans une vie. Et ce qu'on va faire, et c'est là où je prends un risque, c'est que si tu n'es pas baptisé, c'est toi qui me diras à la fin si tu penses que c'est important ou si tu penses que ça ne l'est pas. Alors allons-y pour ces deux choses. Et la première, je trouve qu'elle secoue sévère. La première chose qui se passe lors du baptême, c'est que tu meurs. C'est pas très gai, dit comme ça, mais c'est le sens de l'immersion. Quand on immerge quelqu'un au moment du baptême, ce qu'on fait, c'est qu'on le met au tombeau. C'est une mise au tombeau. La première chose à laquelle on assiste, c'est un enterrement. C'est ça un baptême, d'abord, c'est un enterrement. Cette mort, elle n'est pas subie, elle est choisie. On ne pousse personne dans les eaux du baptême, en tout cas pas dans nos églises. Mais c'est quand même ça que ça veut dire, donner son corps en sacrifice vivant. C'est ça que ça veut dire, mourir à soi-même. Et c'est exigeant en réalité, on y reviendra, mais pour l'instant on va se poser la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut mourir à soi-même ? Et là aussi, on a un paradoxe, parce qu'en fait, le naturel de l'être humain, dans un monde qui est brisé par le péché, c'est d'être spirituellement mort. Et donc, la personne qui entre dans les eaux du baptême, nous, on la voit vivante, mais en fait, elle est vivante pour qui ? Spirituellement, elle est vivante pour Satan, elle est vivante pour le prince de ce monde. Mais quand elle est mise au tombeau, elle meurt. Et donc elle meurt pour qui ? Eh bien elle meurt pour Satan. Elle meurt à Satan. Parce que la vie que lui nous propose, ce n'est pas une vie, c'est une mort. C'est la mort de la séparation d'avec Dieu qui lui est la vie. Et en même temps je dis ça et j'ai conscience que tout ça c'est très théologique. Et je voudrais vous faire toucher du doigt le concret de cette réalité. Et alors c'est là que la prédication peut partir en vrille, parce que j'ai décidé de me détacher de ce que j'avais écrit. Vous savez, en tout cas beaucoup d'entre vous le savent, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, mais à dire vrai, c'est plus que ça. Je suis né dans une famille et dans un entourage où Satan a fait un carnage. Il a fait un carnage. Et je l'ai d'autant plus frais que j'ai eu une drôle de semaine qui a commencé donc dimanche dernier où j'étais à Clermont pour le culte d'installation du deuxième pasteur de l'église baptiste. J'y allais en représentation de notre église et de la fédération. Et puis à la suite de ça, j'ai passé la fin d'après-midi avec mon frère pour continuer de vider l'appartement de mon père. Vous savez, mon père est décédé au mois de novembre et dans ces moments-là, on doit vider évidemment le lieu d'habitation, et on tombe sur tout un tas de choses, tout un tas de souvenirs, des vieilles photos. Je pourrais aborder beaucoup de choses. Je pourrais aborder le fait que mon père était bouddhiste, par exemple, et que souvent on se dit « Ah, c'est cool le bouddhisme, hein, c'est le gentil Bouddha, le gros monsieur qu'on met sur la cheminée, qui sourit tout le temps, qui est bien aimable. C'est la méditation, la paix intérieure. » Eh bien, je peux vous dire d'expérience propre que ce n'est pas cool du tout, le bouddhisme. Ce bouddhisme qu'on a en tête parfois, c'est le bouddhisme Ikea, mais ce n'est pas le vrai bouddhisme. Mon père a été moine, il a fait une retraite cloîtrée de plusieurs années, et je ne peux même pas vous dire ce que j'ai retrouvé dans ses affaires, mais je peux vous dire que ce n'est pas cool du tout, et ça me permet de vous dire, en tout cas, sans scrupule, que ces religions orientales ne sont paisibles que de façade et qu'à l'intérieur, elles sont démoniaques. Et je vous assure que je pèse mes mots. La soirée a continué. Dans cette soirée, mon frère m'a donné des nouvelles d'une vieille amie à moi. C'est une amie qui maintenant a 45 ans et qui, après une bonne vingtaine d'années d'errance et d'abus de toutes sortes, a maintenant complètement décompensé et se trouve internée en psychiatrie. Et ça m'attriste beaucoup, évidemment. D'abord parce que je vois ce qu'elle est devenue, mais aussi parce que je me souviens très bien de la magnifique jeune fille qu'elle a été. Et puis, j'ai pensé à une autre amie, et là, je me suis réjoui parce que je me suis dit, bon, bah, elle n'allait pas bien, mais au moins maintenant, elle a une vie à peu près stable, à peu près, ça tient à peu près, quoi, grosso modo. Et lundi, j'ai reçu un message m'informant qu'elle s'était suicidée. Et la vérité, c'est que je ne compte plus les morts autour de moi. Je ne les compte plus. Il y en a eu beaucoup, beaucoup trop. J'ai souvent le sentiment d'être Noé dans son arche, vous savez. On a une belle image de Noé dans son arche. J'imagine qu'il devait être très reconnaissant, lui, d'être dans cette arche, d'être à sec, mais j'imagine aussi qu'il devait être absolument horrifié de la montée des eaux qui engloutissaient les êtres qu'il avait connus et aimés. Je ne dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières, je dis ça parce que c'est à ça que ressemble la vie sans Dieu quand elle est consumée jusque dans ses dernières conséquences. Et on n'est pas en train de parler de quelque chose de très lointain, du jugement dernier, même si on en parle aussi, mais de ce jugement dernier, on en goûte les prémices dès ici-bas, dès maintenant, et pour beaucoup de gens, l'enfer est déjà là. En Colossiens 2, 13, Paul parle à des chrétiens et il leur dit, pour parler de leur ancienne vie, « Vous qui étiez morts à cause de vos fautes. » Vous qui étiez morts à cause de vos fautes. Alors dans ces conditions, évidemment, la mise au tombeau, c'est une joie. C'est une joie parce qu'elle aboutit à nous rendre vivants en Christ. Maintenant, il ne faut pas non plus passer trop vite sur cette mise au tombeau, et je suis désolé parce que j'insiste beaucoup aujourd'hui là-dessus, et ce n'est pas la partie la plus joyeuse, mais c'est une affaire sérieuse, c'est même le point crucial, parce que cette mort, elle implique de vrais renoncements. Figurez-vous que même dans les situations extrêmes que j'ai citées, notre nature pécheresse aime les œuvres de Satan. Elle les aime. Dans l'Église ancienne, il était de coutume de poser la question suivante aux futurs baptisés : renonces-tu à Satan, à ses pompes et à ses œuvres ? Alors les pompes, ce n'est pas les chaussures. C'est la cohorte des anges déchus que Satan traîne derrière lui. Mais au-delà de la petite blague, concrètement, ça veut dire ce péché-là qui est dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à le reconnaître comme tel ? Et en conséquence à t'en repentir, c'est-à-dire à l'abandonner et à marcher dorénavant en nouveauté de vie à la suite du Christ. C'est ça que ça veut dire. Et à ça, quand on écoute ça comme ça, on dit « mais oui, mais bien sûr, évidemment !» Surtout quand tu regardes d'où je viens, tu penses « bien sûr que je veux ça !» Mais après ce premier oui enthousiaste, on se retrouve parfois confronté à la réalité de notre propre péché. Et c'est pas rare qu'on commence à entrer dans les négociations parce qu'on sent le poids du renoncement. On commence à sentir ce que veut vraiment dire mourir à soi-même. Alors on négocie. Ah oui, non, mais moi, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas pareil. Ou, non, mais je suis pas d'accord. Ton interprétation, là, non. On peut voir les choses autrement. Alors, qu'on ne se méprenne pas sur ce que je dis, il n'y a pas de réponse facile. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette toute faite à appliquer sans aucun discernement. J'essaye juste de faire mettre le doigt sur le fait que cette mort à soi-même, ce n'est pas juste du blabla, du bon sentiment, une jolie formulation qui fait plaisir au pasteur. J'essaye de vous faire mettre le doigt sur le fait que pour vivre une vie de ressuscité, c'est vrai, il faut passer par la mort du crucifié. Et que ce n'est pas toujours quelque chose de facile, parce que notre nature pécheresse aime les œuvres de Satan. Mais, évidemment, tout ça, c'est pour la bonne cause. C'est pour aboutir à la deuxième chose qui se passe lors du baptême. Et cette deuxième chose qui se passe, c'est que tu ressuscites à une vie nouvelle. Romains 6, les versets 3 à 6, nous disent ceci, je lis dans la version « Parole de vie ». Vous le savez bien, notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a tous unis à sa mort. Vous voyez, je ne l'invente pas. Hein ? Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais, la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui en levant en nous, pardon, de même nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Et c'est pour ça que le baptisé, on ne le laisse pas au fond du baptistère. Vous avez remarqué, on ne lui tient pas la tête sous l'eau. Il n'y reste pas. On le relève. Il est relevé. Il est relevé de ce tombeau où il a été plongé. D'ailleurs, il ne se relève pas lui-même, on l'aide, parce que tout seul, ce n'est pas possible. Uni au Christ dans sa mort, il l'est aussi dans sa résurrection. Il ressuscite à une vie nouvelle. Et le verset 6 de Romains 6 dit « Comprenons bien ceci, ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. » Alors est-ce que ça veut dire que nous ne pécherons plus ? Non, évidemment, nous le savons. Jean dit même que celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur, ce qui fait de lui un pécheur, vous avez noté ? Alors évidemment, on aura des chutes, évidemment, il y a des combats, mais en Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons changé de maître. Et ce qui était avant un mode de vie, parce que nous appartenions à Satan, devient ensuite un accident de parcours, un accroc, duquel nous pouvons toujours, toujours nous relever. Parce que le Seigneur nous équipe, il nous donne une armure pour nous défendre, et même une arme offensive pour attaquer. Tout ça, vous le trouvez en Éphésiens 6, vous pourrez lire ça. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les sandales de l'annonce de la bonne nouvelle, le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin, le casque du salut, et finalement l'épée de l'Esprit Saint qui est la parole de Dieu. Et ça, ça change tout dans une vie. Ça change tout parce que de victimes du diable, de prisonniers que nous étions, nous avons été libérés et nous devenons capables de nous défendre. Et la victoire est certaine parce que cette victoire ne dépend pas de nous, elle dépend de Jésus-Christ et que cette victoire, elle a déjà eu lieu. C'est un fait historique, c'est la victoire du Christ à la croix. Il a porté ton péché, il a vaincu la mort, il est assis à la droite du Père et il a reçu toute autorité sur les puissances qui te tenaient captif. Et ce Christ, il vit en toi par son Esprit Saint. Alors, je sais d'où je viens, je m'en rappelle, mais je sais aussi où je me trouve maintenant et je sais avec qui je me trouve maintenant. Et vous savez comment je le sais ? Vous savez comment j'en suis sûr ? Je le sais et j'en suis sûr parce qu'un autel a été bâti dans le parcours de ma vie. C'était le 15 mai 2005. On est le 15 mai aujourd'hui. C'était il y a 17 ans, jour pour jour, ça tombait un dimanche. Ce jour-là, j'ai descendu les quelques marches du baptistère de l'église baptiste de Clermont-Ferrand. Je suis entré dans l'eau, j'ai confessé ma foi, j'ai été enseveli dans l'eau du baptême et je suis ressorti là, loin de l'Esprit Saint, lavé de mes péchés et propre comme un sou neuf. Et quand l'ennemi vient me voir pour me dire « mais non », je lui sors les photos, j'ai un album, et je lui dis « bah si, ça s'est passé, il y a eu des témoins, c'est une pierre dans ma vie, et cette pierre, personne ne me l'enlèvera. » Et ma vie a changé du tout au tout. J'ai été extirpé des griffes de Satan, je suis monté dans l'arche, je suis passé des ténèbres à la lumière. Alors j'arrive au bout de cette prédication, et je laisse ça à ta méditation. Si le baptême, c'est mourir uni à Christ et renaître avec lui à une vie nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé avec le bandit à la croix ? Est-ce qu'on peut vraiment dire du bandit à la croix qu'il n'a pas été baptisé ? Si le baptême, c'est mourir uni à Christ et renaître avec lui à une vie nouvelle ? Moi, je crois qu'il est passé par le baptême de la manière la plus directe qui soit, celui-là. Maintenant, c'est vrai. Le rite du baptême, le fait de descendre dans l'eau, ne sauve pas. Si le baptême est dépouillé de sa réalité spirituelle, alors franchement, va plutôt prendre un bain. Ça sera plus utile que de faire l'andouille devant toute une église. Mais si ce à quoi tu aspires de tout ton cœur, c'est à suivre le Christ qui est mort à la croix pour toi, qui a porté ton péché, qui t'a délivré de l'emprise de Satan, si tu veux reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu veux marcher à sa suite comme disciple, alors n'attends pas, repens-toi de ton péché et fais-toi baptiser. Et maintenant, c'est ton tour. on va faire ce que j'ai dit au début. On va faire ce que j'ai proposé. Si tu n'es pas encore baptisé, tu vas pouvoir dire devant Dieu maintenant si tu penses que c'est finalement important que tu le sois. Ça va se passer entre toi, le Seigneur, et moi, pour qu'il y ait un témoin de ton engagement devant Dieu. Tous les autres vont, enfin on va tous incliner nos têtes, sauf moi, on va tous fermer nos yeux, sauf moi, je vais prier, et ensuite je vais inviter les gens que le Seigneur a appelés ce matin à lever la main. Les personnes qui se disent « oui, d'accord, c'est important ». Ça ne veut pas dire que vous irez dans le baptistère demain matin, déjà parce qu'on est lundi, mais ça veut dire que vous prenez cet engagement devant Dieu de considérer l'importance du baptême pour vous-même, dans votre parcours de vie, parce que figurez-vous qu'un parcours de réflexion autour du baptême va démarrer et vous aurez l'opportunité donc de le rejoindre pour continuer d'approfondir cette question. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Nous voulons nous reconnaître pécheurs devant toi. Nous nous reconnaissons pécheurs devant toi. Nous reconnaissons que si nous sommes là ce matin, c'est vraiment par ta grâce. Ce n'est pas par nos mérites. C'est toi qui as fait de nous tes enfants. Tu nous as adoptés. On l'a chanté tout à l'heure, Seigneur. Nous reconnaissons que la vie sans toi, c'est une vie sous l'emprise de l'ennemi, Seigneur, et que nous n'arrivons pas à marcher droit. Seigneur, tu nous fais grâce, et tu nous fais grâce par ton sacrifice, parce que notre péché, tout ce qu'on a pu faire, Seigneur, qui était tellement loin de ta volonté, tous ces moments où on a voulu marcher par nos propres forces et où on s'est planté, tous ces échecs, tu as tout porté sur toi à la croix. Seigneur, tu as subi à notre place le sort qui nous était réservé, de sorte que nous sommes maintenant revêtus de ta justice et que lorsque le Père nous voit, c'est toi qui le vois. Et ça, c'est un miracle à nos yeux parce que nous n'en sommes pas dignes et c'est pour ça que nous t'en rendons grâce. Nous sommes reconnaissants. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes là que tu es en train d'appeler maintenant. Tu es en train de travailler leur cœur. Tu les appelles à avancer vers le baptême. Peut-être même que tu les appelles simplement à se faire baptiser. Là, bientôt. Je te les remets, Seigneur. Je te prie de les bénir. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors on va rester avec nos têtes inclinées parce que je voudrais vraiment que ce soit un engagement qui soit pris entre les personnes et le Seigneur sans le regard posé sur eux, peut-être des frères et des sœurs, mais avec mon regard en revanche, parce que c'est important qu'il y ait un témoin de ces choses-là. Je voudrais aussi dire que je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas faire ce pas, non pas parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur, mais juste parce qu'ils sont timides et qu'ils ne se voient pas du tout se placer devant l'Église, apporter leur témoignage. Et je voudrais leur dire que cet appel ce matin, il est pour vous aussi. On trouvera le moyen de cheminer. La timidité, ce n'est pas une raison pour ne pas s'engager avec Dieu. On trouvera le moyen de cheminer. Alors je vais demander simplement maintenant à celles et ceux qui veulent cheminer, qui veulent avancer vers le baptême, de lever leurs mains. Voilà, je vous ai vu. C'est pas trop tard. Je vous ai vu. Je vous ai vu et je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous parce que c'est une bonne décision. C'est un bel engagement que vous prenez maintenant. On ne va pas le laisser lettre morte, cet engagement. Maintenant que vous l'avez pris, maintenant que je vous ai vu, je vous invite à me contacter cet après-midi, par exemple, par mail, par téléphone, par le moyen que vous voudrez, et on trouvera le moyen d'avancer ensemble, de cheminer ensemble. Voilà, vous pouvez relever vos têtes. Et on peut passer à la suite.
Bonjour. J'aimerais inviter la personne qui est censée faire les annonces à venir ici même. Merci, au revoir.